VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Une dizaine de civils tués au Niger dans une attaque près de la frontière avec le Mali. Au cours de sa tournée africaine, Anthony Blinken met en garde contre les menaces envers la démocratie. Au Soudan, 10 manifestants ont été tués alors que le pays est coupé du monde. Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au premier jour d'une tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu 1h30 à Nairobi avec le président Uhuru Kenyatta, qui participe activement à la médiation régionale sur le conflit éthiopien. Nathalie Barge.
Anthony Blinken a commencé sa tournée par une rencontre avec des responsables de la société civile kényane, les appelant à rester vigilants à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Les élections au Kenya sont régulièrement marquées par des violences meurtrières. Lors d'une conférence de presse à Nairobi, M. Blinken a appelé à des avancées concrètes pour la paix et à la reprise de l'aide humanitaire au Tigré, renouvelant l'appel aux citoyens américains à quitter l'Éthiopie. La ministre kényane des Affaires étrangères, Rachel Omamo, a déclaré qu'un cessez-le-feu était possible entre Addis Abeba et les rebelles du Tigré. Monsieur Blinken a également déclaré que le Soudan retrouvera le soutien de la communauté internationale si la légitimité de son gouvernement est restaurée. Les États-Unis ont suspendu 700 millions de dollars d'aide au Soudan après le coup d'État du 25 octobre. Anthony Blinken se rendra demain au Nigeria. Il ira ensuite au Sénégal, considéré comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique.
En Éthiopie, la Commission des droits de l'homme déplore des entraves à son travail et dit ne pouvoir accéder à des centres où sont détenues des personnes arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence, décrété début novembre dans le pays en guerre depuis un an. Cet organisme indépendant mais rattaché au gouvernement estime que des milliers de personnes ont été appréhendées dans les dernières vagues d'arrestations qui, selon des avocats et des groupes de défense des droits, ciblent les Tigréens uniquement sur la base de leur appartenance ethnique. Au Soudan, le bilan de la répression des manifestations de ce mercredi continue de s'alourdir. Il est maintenant de 10 morts, portant à 34 le nombre de personnes tuées depuis 3 semaines. Toutes les communications sont coupées. Abdourahmane Dia.
Dans la seule banlieue nord de la capitale, 7 personnes ont été tuées par des balles tirées, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, par les forces de sécurité qui visaient la tête, le cou ou le torse. Dès la mi-journée, le nouveau pouvoir militaire a coupé toutes les communications téléphoniques, tandis qu'Internet est inaccessible dans le pays depuis le 25 octobre. Pour la troisième journée de mobilisation massive, les militants n'ont pas pu mobiliser comme d'habitude par SMS et les manifestants n'étaient que quelques milliers contre des dizaines de milliers les fois précédentes. Le déploiement sécuritaire et la répression, en revanche, étaient, eux, plus importants. En visite au Kenya, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué que le Soudan retrouvera le soutien et l'aide de la communauté internationale si la légitimité du gouvernement renversé par un coup d'État militaire le 25 octobre est restaurée.
En Ouganda, le bilan du double attentat suicide à Kampala hier est monté à 4 morts, alors que la capitale est placée sous haute sécurité. Les deux attentats menés par 3 kamikazes ont eu lieu à 3 minutes d'intervalle hier matin. Ils ont été revendiqués par le groupe État islamique. Une dizaine de civils ont été tués mardi dans une attaque de djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, près du Mali, ont indiqué mercredi des sources locales. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Il y a eu une attaque d'hommes armés à Bakorat et il y a eu plus de 10 morts, a affirmé à l'AFP un responsable municipal de Tilia, chef-lieu du département qui administre Bakorat. Un bilan provisoire annoncé par les villageois fait état d'une dizaine de miliciens tués, selon un autre élu local. Le bilan pourrait toutefois être plus lourd, le journal R-Info affirmant qu'une vingtaine de jeunes civils ont été tués. Un violent affrontement a eu lieu hier mardi entre un groupe d'hommes armés et une milice d'autodéfense à Bakorat. Les assaillants sont arrivés à bord de 6 véhicules de 4x4, devancés par plusieurs motos, affirme RFO qui cite un rescapé. Début novembre, au moins 69 villageois, dont le maire de la commune Nibangu, ont été tués dans la région de Tillabéri. Le 21 mars, 141 civils ont été massacrés dans plusieurs attaques menées contre les localités de Bakorat, Intezayan et Oursanat. Il s'agit des attaques les plus meurtrières ces dernières années dans le pays.
Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque djihadiste de dimanche à Inata s'est encore alourdi. On dénombre 53 personnes tuées, dont 49 gendarmes et 4 civils, a-t-on appris aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres. Le commandant de la première région de gendarmerie en charge du détachement d'Inata a été limogé. Un deuil national jusqu'à jeudi a été déclaré. Le détachement de gendarmerie d'Inata, ville de la région du Sahel et proche de la frontière du Mali, comprenait entre 100 et 150 hommes selon des sources locales. Le nord de la Côte d'Ivoire est sous contrôle, a affirmé aujourd'hui Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées ivoiriennes. C'est une menace asymétrique. Nous contrôlons notre terrain et sommes prêts à réagir face à toute éventualité, a ajouté le général en marge d'un sommet des chefs d'état-major de la CDAO. Le nord-est de la Côte d'Ivoire, qui partage une frontière avec le Mali et le Burkina Faso, a également été touché par plusieurs attaques depuis l'an dernier, la plus meurtrière remontant à juin 2020, où 14 soldats avaient été tués à Kafolo. En République démocratique du Congo, 3 militaires ont été tués en territoire de Fizi. Selon le major Dieudonné Kasereka, des miliciens Maïmaï ont attaqué un pâturage et ont volé plusieurs centaines de bovins. Les soldats des FRDC ont pourchassé les voleurs et sont tombés dans une embuscade. 3 sont morts et 2 sont grièvement blessés, a précisé le major.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a significativement augmenté ces derniers mois la quantité d'uranium enrichi, contrairement à ses engagements pris en 2015 sur son programme nucléaire. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'AIEA. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
L'Agence internationale de l'énergie atomique estime qu'au début du mois de novembre, Téhéran a porté son stock enrichi à 60% à 17 kg contre 10 kg à la fin août. L'Iran dépasse ainsi largement la limite fixée dans le cadre de l'accord de 2015. Le rapport de l'AIEA sera examiné lors d'un conseil des gouverneurs qui s'ouvre le 24 novembre à Vienne, siège de l'AIEA. Le directeur général de l'instance onusienne, Raphaël Grossi, est attendu à Téhéran le 22 novembre pour des entretiens avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohamed Eslami, et le chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian. Le 29 novembre, les pourparlers doivent reprendre dans la capitale autrichienne pour tenter de ressusciter l'accord de 2015 en échange d'un allègement des sanctions. Les États-Unis, qui se sont retirés de l'accord en 2018, vont participer de manière indirecte aux discussions. Les responsables iraniens ne cessent de répéter la position de leur pays sur le retour irrévocable des États-Unis à ce pacte et la levée des sanctions qui asphyxient l'économie iranienne.
Les États-Unis ont annoncé avoir ajouté la Russie à leur liste noire des pays particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse. En revanche, le Nigeria, inscrit sur cette liste l'an dernier, en a été retiré. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit s'y rendre cette semaine. Par ailleurs, les États-Unis ont enregistré un record de plus de 100 000 décès par overdose sur un an durant la pandémie. Les autorités américaines s'alarment d'une crise sans précédent, notamment liée aux ventes illégales de fentanyl, un puissant opiacé. Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu ce mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping, une première dans l'histoire des relations entre les deux pays, évoquant notamment le programme nucléaire iranien, selon la présidence israélienne. Le mécanisme international COVAX a franchi la barre des 500 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 distribuées dans 144 pays et territoires, a annoncé Gavi, l'alliance du vaccin. Ce mécanisme de financement international est censé permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères. Mais Gavi et l'OMS dénoncent régulièrement l'inégalité criante dans l'accès à la vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le FMI annonce ne pas être en mesure d'apporter un soutien budgétaire au Zimbabwe en raison d'une dette insoutenable. Un accord avec le fonds exigera un engagement clair vers une restructuration complète de la dette extérieure du Zimbabwe, y compris la purement des arriérés et l'obtention de garanties de financement de la part des créanciers, a déclaré l'Organisation monétaire à l'issue d'une mission virtuelle d'un mois au Zimbabwe. Ce pays a une dette de 9,3 milliards d'euros, dont près de 6 milliards d'arriérés. La Tanzanie va bénéficier d'un appui de la Banque africaine de développement à l'horizon 2025 pour améliorer le climat des affaires, rendre son économie plus compétitive et aménager ses infrastructures de transport, dont les routes, voies navigables, chemins de fer et aéroports. La BAD veut aussi dynamiser le secteur privé, notamment par la réduction de la pauvreté et du chômage des jeunes. Pour terminer, en Afrique du Sud, trois groupes de la société civile poursuivent le gouvernement en justice pour son projet d'une nouvelle centrale au charbon de 1500 MW qui, selon eux, menace le droit des personnes à un environnement propre. Les avocats des trois groupes ont écrit aux autorités pour que le plan soit abandonné. Le gouvernement estime que cette exigence ne se justifie pas car une énergie renouvelable est plus propre et moins nocive. L'Afrique du Sud est le 12e émetteur mondial de gaz à effet de serre.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont pris hier les derniers billets pour les barrages de la zone Afrique des qualifications pour le Mondial 2022. Ils rejoignent le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la République démocratique du Congo, qui étaient déjà assurés de participer à ces cinq barrages en match aller-retour, dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre à Doha. Les cadors ont répondu présents selon Babacar Ndaoufai, chef du service des sports de Imedia à Dakar.
Il n'y a pas de surprise, je dirais, parce que tout simplement tous les 10 têtes de série qui avaient été annoncées avant le début de cette deuxième phase d'éliminatoire sont tous passés. Hein.
La grande perdante est la Côte d'Ivoire, dominée 1-0 au Cameroun et qui manquera la Coupe du Monde pour la deuxième édition consécutive après avoir participé aux trois précédentes 2006, 2010 et 2014. Pour Babacar Ndaoufai, les éléphants ont laissé filer leur chance.
Déception, c'est peut-être trop dire. On va dire peut-être la Côte d'Ivoire. Pas dans le sens que la Côte d'Ivoire est une meilleure équipe que le Cameroun, mais surtout dans le fait qu'ils avaient quand même leur qualification en main jusqu'à la dernière journée, qu'ils n'avaient besoin que d'un point du nul pour assurer cette qualification. Et même en cherchant le match nul, je pense qu'ils ont été vraiment assez limités dans les intentions. Par rapport à la qualité de leur effectif, on a quand même eu de quoi être très déçus. Pas sur le parcours de façon globale, mais vraiment sur ce dernier match.
Babacar Ndaoufai, chef du service des sports de Imedia, joint à Dakar au Sénégal. Vous l'avez suivi, l'Algérie championne d'Afrique en titre a validé sa qualification dans la douleur en faisant match nul 2-2 lors de la dernière journée contre son dauphin dans le groupe A, le Burkina Faso, pour les barrages. Le sélectionneur de l'Algérie dit s'attendre à tout et est désormais mieux préparé.
Moi, c'est pas mon cœur qui dirige, c'est mon cerveau pour le match. L'adversaire qui va se présenter devant nous, on va bien préparer ces matchs-là et l'objectif, qualifier pour cette Coupe du Monde coûte que coûte, peu importe l'adversaire qui sera en face de nous. Voilà, on l'étudiera bien, on se préparera bien et Inch'Allah, on fera en sorte de se qualifier.
Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie. Les oppositions des barrages seront établies par un tirage au sort prévu par la CAF le 18 décembre à Doha au Qatar. Les 5 vainqueurs de chaque double confrontation seront les représentants de l'Afrique au prochain mondial qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. NBA, Golden State a donné une leçon de basket à Brooklyn 117-99 et Stephen Curry étincela avec 37 points à remporter son duel à distance de potentiel MVP face à Kevin Durant, 19 points. Le Jazz n'a fait qu'une bouchée de Philadelphie battue 120-85. Los Angeles a écarté San Antonio 106-92.
Merci Yakuba. À l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg toujours avec vous, place au dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les Africains à rester vigilants face aux menaces croissantes contre la démocratie en ouverture de sa tournée africaine mercredi au Kenya, où il a également abordé la préoccupation des États-Unis face au conflit qui ravage l'Éthiopie. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
Anthony Blinken s'est entretenu ce matin avec des responsables de la société civile kényane avec qui il a évoqué la manière d'empêcher les récalcitrants de mettre à l'épreuve les institutions démocratiques.
Au cours des 10 dernières années environ, nous avons assisté à ce que certains appellent un recul démocratique. La démocratie a été mise à l'épreuve de toutes sortes de façons, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous avons vu la confiance des citoyens dans la démocratie diminuer. Nous avons vu de mauvais acteurs jouer sur certaines décisions au sein des démocraties, des institutions indépendantes remises en question et sapées.
Lors de sa conférence de presse conjointe avec la ministre kényane aux Affaires étrangères, Rachel Omamo, M. Blinken a abordé les tentatives de résolution pacifique de la guerre qui ravage l'Éthiopie depuis plus d'un an. Les États-Unis ont critiqué l'Éthiopie et dénoncé des violations des droits de l'homme et les entraves à l'acheminement d'aide alimentaire au Tigré, où la famine menace des centaines de milliers de personnes. Anthony Blinken se rendra demain au Nigeria, dont les autorités sont critiquées par Washington pour leur attitude envers les droits humains, notamment lors de la répression policière d'une manifestation pacifique en octobre 2020. Il ira ensuite au Sénégal, considéré comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée dans 3 pays africains. Au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, il évoquera des questions liées à la démocratie, la sécurité et la coopération économique. Ceci dans un contexte de poussée russe et chinoise sur le continent. Quel est l'état et l'avenir de la coopération entre Washington et le continent africain dans les domaines économiques et sécuritaires? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Kenya, les agences de sécurité sont engagées dans une chasse à l'homme pour retrouver 3 dangereux suspects condamnés pour terrorisme et qui se sont évadés lundi d'une prison de Nairobi. L'un des fugitifs a été impliqué dans une attaque contre l'université de Garissa en 2015 qui a fait près de 150 morts. Mohamed Youssouf fait le point depuis Nairobi. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les 3 hommes se sont évadés de la prison de Kamiti, la plus grande prison de haute sécurité du Kenya. La police a arrêté mardi 7 gardiens de cette prison en rapport avec l'évasion. Le porte-parole de la police, Bruno Chioso, a déclaré que les fugitifs sont toujours en cavale et que les gardiens arrêtés aidaient à l'enquête sur la façon dont ces hommes ont pu s'enfuir.
Nous avertissons simplement les gens d'être en alerte, de fournir des informations et qu'ils puissent coopérer avec nous. Maintenant, nous avons commencé des enquêtes pour savoir ce qui s'est exactement passé. Ainsi, à terme, nous pourrons partager avec le public une fois l'enquête terminée.
Les trois condamnés incluent Musharraf Abdallah, qui a été reconnu coupable d'avoir tenté d'attaquer le Parlement en 2012, Joseph Juma Odhiambo, qui a été arrêté en 2019 à la frontière entre le Kenya et la Somalie pour avoir envisagé de rejoindre le groupe Al-Shabaab, et enfin Mohamed Ali Abikar, qui a été reconnu coupable de son rôle dans l'attaque d'Al-Shabaab contre l'université de Garissa en avril 2015. Au moins 148 personnes, la plupart des étudiants, ont été tuées. Les trois hommes étaient gardés avec des criminels plus ordinaires à l'intérieur de la prison de Kamiti, qui, selon l'analyste de la sécurité basée à Nairobi, Richard Tuta, est une pratique dangereuse.
The moment you bring together these militants,
au moment où vous rassemblez ces militants avec tous les petits voleurs, les pickpockets et tout ça, c'est très facile pour eux d'utiliser les failles qui existent au niveau de la sécurité pour s'échapper. Ce sont des gens qui ont des ressources, ce sont des gens qui sont bien formés, ce sont des gens qui ont de bons réseaux à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Tout ceci crée un environnement propice à leur évasion.
Certains condamnés et terroristes présumés en attente de justice ont été accusés d'avoir radicalisé d'autres prisonniers. Le porte-parole de la police, Chioso, a déclaré que l'évasion a incité la police à revoir le traitement des suspects et des condamnés terroristes.
Nous essayons de revoir le travail de très près dans un cadre multi-agence. Nous travaillons en étroite collaboration avec les prisons pour revoir la sécurité de toutes les prisons, y compris les installations de police qui accueillent des criminels.
Le gouvernement offre une récompense de 550 000 shillings pour les informations menant à la capture des fugitifs qui, selon les autorités, sont dangereux. Chioso a également mis en garde le public contre le fait de vouloir se faire justice. En octobre, une foule a tué un homme qui s'est évadé de prison. Masten Wanjala avait avoué avoir tué 10 enfants.
Au Nigeria, Amnesty International et plusieurs figures du mouvement de contestation ont salué mardi les conclusions du rapport d'une commission indépendante et la reconnaissance qu'un massacre a été perpétré le soir du 20 octobre 2020 à Lagos. Le point avec Eric Manirakiza.
Le massacre de Lekki a eu lieu, a simplement écrit l'avocate Moe Odele sur Twitter, le réseau social américain suspendu depuis près de 6 mois dans le pays. Issa Sanoussi, responsable de la communication auprès de Amnesty International au Nigeria, exprime sa satisfaction.
Amnesty International se félicite vraiment de ce rapport et il faut que justice soit faite. Nous avons déjà publié immédiatement après l'incident nos conclusions qui montrent que ce nombre de personnes a été tué. Mais le gouvernement a dit que c'était un mensonge, que nous ne disions pas la vérité. Mais maintenant que la vérité est sortie, nous demandons au gouvernement de faire ce qui est juste.
Je ne peux pas croire que ces monstres nous ont fait croire que nous étions fous. Quelque chose que nous avons regardé sur Instagram en direct. Quoi qu'il en soit, le rapport est sorti maintenant et il est clair comme le jour, écrit le chanteur Fals sur Instagram, le réseau social où la nuit du 20 octobre, des vidéos de la répression avaient été diffusées en direct. Les appels à traduire en justice les responsables de la tuerie et à indemniser les victimes, comme recommandé par la commission, se sont également multipliés. Issa Sanoussi est responsable de la communication auprès de Amnesty International au Nigeria.
C'est un pas en avant. Le gouvernement doit s'assurer de la mise en œuvre des conclusions de ces rapports. Nous allons assurer le suivi de cette affaire. Et si vous lisez notre déclaration, nous demandons instamment au gouvernement nigérian et à celui de l'État de Lagos de faire ce qu'il faut. Pour nous, la bonne chose à faire est de s'assurer que le rapport soit mis en œuvre et que les personnes responsables du meurtre de manifestants pacifiques soient traduites en justice. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation et à nous assurer que le gouvernement s'acquitte de son devoir, à savoir rendre justice aux victimes.
Sur son compte Twitter, l'ambassade des États-Unis au Nigeria a également salué mardi le rapport de la commission d'enquête. Nous attendons avec impatience que le gouvernement de l'État de Lagos et le gouvernement fédéral prennent des mesures appropriées pour répondre à ces abus présumés et aux doléances des victimes et de leurs familles, a-t-elle déclaré.
Le golfe de Guinée est actuellement miné par la piraterie maritime. La CDAO est donc sur plusieurs fronts pour mettre en ordre de bataille non seulement les armées, mais aussi et surtout les sociétés civiles de la sous-région ouest-africaine. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite cette semaine plusieurs réunions militaires et civiles pour arrêter une stratégie globale de lutte contre la piraterie maritime. Pour en parler, Georges Ebion a joint à Abidjan le colonel Karim Koulibaly, directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer.
Le premier problème que ça pose, c'est le problème d'insécurité déjà dans nos ports. C'est-à-dire qu'un navire marchand, qui sont des navires qui appartiennent à des compagnies internationales, s'engage dans le golfe de Guinée, il y a une crainte, il y a un gros risque qui pèse sur ce navire parce qu'à tout moment, il peut être attaqué. La deuxième chose aussi, c'est que pendant les attaques également, quelquefois, il y a mort d'hommes parce qu'ils utilisent des armes, parce qu'ils font des armes de guerre. La troisième chose, c'est l'impact que ça a sur notre zone, sur le golfe de Guinée. Il y a une grande zone de transit international et vous savez que tous les États riverains du golfe de Guinée, leur économie est basée sur le maritime. 90% des échanges de notre zone passent par la mer. Et une fois que ces compagnies se sentent menacées, soit elles peuvent arrêter de venir dans le golfe de Guinée, soit elles peuvent aussi augmenter les coûts, mettre des surcoûts d'assurance, etc.
La solution que l'on cherche maintenant, c'est une solution au niveau de la CDAO. Pourquoi les stratégies appliquées jusque-là ne marchent pas?
Le problème, il est là, mais je pense que de plus en plus, les États sont en train de lutter. La zone sensible de la piraterie au niveau du golfe de Guinée, c'est au large du Nigeria. Et nous savons que dernièrement, le Nigeria a pris des mesures vraiment fortes pour lutter encore plus contre la piraterie. Nos États avaient des problèmes par le passé parce que les législations n'étaient pas adaptées. Mais de plus en plus, chaque État est en train de mettre en place des législations adaptées et s'équiper en patrouilleur, en navire pour pouvoir poursuivre ces bandits. Mais surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la coordination qui existe au niveau des États. Vous avez vu qu'actuellement, où je vous parle, les chefs d'État-majors des États, les chefs d'État-majors généraux sont réunis. Il y a eu la réunion des chefs d'État-majors des marines, même des États du Golfe de Guinée. Donc, les États se parlent entre eux. Et donc, il y a une coordination aujourd'hui dans cette lutte-là.
Alors, il y a le terrorisme au nord, dans le Sahel. Il y a la piraterie sur le littoral. Les deux appellent des solutions qui, selon vous, convergent.
Je pense que les deux convergent parce que ce sont des luttes qui transcendent les États. Et ce sont des menaces qui transcendent les États. Vous avez parlé du terrorisme dans le Sahel. Vous avez vu, on est parti de la zone des trois frontières. On est descendu jusqu'au sud du Mali et du Burkina. Et aujourd'hui, c'est une menace. Le nord de la Côte d'Ivoire est carrément menacé. Les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps la question. Mais les autorités ivoiriennes, leur approche est d'abord au niveau interne. Se donner les moyens de contrer, les moyens militaires, les moyens de renseignement, etc. Mais également, l'un des axes de l'action des autorités ivoiriennes, c'est de se dire que c'est une menace transnationale. Donc, elle travaille en coordination avec tous les États du Golfe, tous les États qui sont concernés. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, a fait des tournées dans ces États-là. Et donc, tout le monde est conscient, tous les États sont conscients que c'est de façon concertée qu'ils peuvent lutter contre ce fléau. Donc, la question, elle est multiforme, la réponse aussi est multiforme.
C'était le colonel Karim Koulibaly, directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en Côte d'Ivoire.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissa, Michel Joseph et Georges Léonard Stagnaud. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.